RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules, avec Charles Consigny, Jean-Loup Bonamy, avec Laura Varton-Martinez et vous êtes avec nous en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. La première heure des GG est d'ores et déjà disponible sur les podcasts. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous avez le jeu, les places à l'Europa Park à gagner. Toute cette semaine, on vous offre un séjour de 2 jours pour 4 personnes. Il suffit d'envoyer Europa par SMS au 73216. Europa par SMS au 73216. C'est tout simple, simple comme un SMS. Tirage au sort pour gagner le séjour dans ce parc qui a été élu 10 fois meilleur parc de loisirs au monde. Tout à l'heure à 11h20 et vous passez en direct dans les grandes gueules. La deuxième heure des GG. Quel est le meilleur candidat de la droite? On s'interrogera tout à l'heure à 10h30 au moment où les uns
Charles
et les
Consigny.
Autres avancent. Charles Consigny, Philippe, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand, David Lisnard. On en a sélectionné 4. Vous venez départager ça avec les GG, avec les grandes gueules. L'Iran, parlons-en maintenant avec ce qu'a dit Donald Trump.
Nous avons un plan, grâce à la puissance de nos forces armées, qui prévoit que tous les ponts d'Iran seront détruits, que toutes les centrales électriques d'Iran seront hors service, brûleront, exploseront et ne pourront plus jamais être utilisées. Une destruction totale, et si nous le voulons, cela se fera en l'espace de 4 heures.
Putain de missile téléguidé qui rase un village. C'est le concept ultime. La guerre qui sauve des vies. Génial.
Vous vous souvenez, c'était dans les guignols.
Le commandant Sylvestre.
Le commandant Sylvestre, le maître du monde, sous les traits de Sylvester Stallone. Effectivement, donc Donald Trump commence à en avoir ras-le-bol. Il veut terminer sa guerre avec l'Iran. C'est le déluge de feu, c'est l'enfer. Et s'il veut, il règle le problème en moins de 4 heures, Donald Trump.
Alors, en tout cas, le compte à rebours est lancé. Alors, il a repoussé de 24 heures son ultimatum qui doit expirer dans quelques heures. Mais pour l'instant, le régime iranien résiste. Dénonce d'ailleurs cette rhétorique grossière et arrogante du président américain. Donc on est dans un bras de fer. On nous parle de négociations, de cesser le feu, etc. Visiblement tout ça semble s'éloigner et le moment de vérité est là. Alors effectivement, les Américains peuvent taper encore plus fort que ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça fera plier l'Iran? On a bien compris que le régime des Mollahs avait comme seule arme véritablement le détroit d'Ormuz. Certes, il lance des missiles, etc. qui peuvent parfois tuer, mais c'est quand même assez peu par rapport à l'armada qu'il y a en face. Le détroit d'Ormuz, en revanche, est un moyen de pression. Donc, est-ce que Trump doit taper le plus fort possible pour faire céder, une fois pour toutes, le régime iranien?
Jean-Loup.
Alors, non, mais c'est très intéressant parce que, premièrement, j'entends les déclarations de Donald Trump qui sont un parfait résumé de ce qu'est, point de vue de la définition du droit international, un crime de guerre. Parce que si je fais sauter tous les ponts qui sont des ouvrages civils d'un pays, si je fais sauter les stations électriques qui sont des infrastructures civiles qui servent à la population, eh bien je commets typiquement un crime de guerre. Donc très bien, mais à partir de là, il ne faudra plus jamais dénoncer aucun crime de guerre et surtout pas ceux de Monsieur Poutine parce qu'on n'est plus du tout crédible. Donc là, typiquement, Donald Trump menace de commettre un crime de guerre et annonce qu'il va peut-être, potentiellement, commettre un crime de guerre. Deuxièmement, on pense que Donald Trump fait ça parce qu'il est lui-même, en fait, aux abois pour, je pense que pour la première fois depuis longtemps dans sa vie, il dort mal la nuit parce qu'il sait qu'il a fait une énorme connerie. Il se rend compte qu'en fait, cette guerre s'enlise et qu'il a une supériorité militaire, mais il n'arrive pas à la convertir politiquement. C'est une impasse politique. Il n'y a pas d'issue politique. Vis-à-vis de la population américaine, il avait été élu en 2016 et en 2024 sur un programme isolationniste anti-guerre, avec un slogan en 2024 « J'arrêterai toutes les guerres ». Là, il fait totalement l'opposé. Il sait que cette guerre est impopulaire aux États-Unis. Il voit qu'en fait, il n'y a pas d'issue politique claire, et donc qu'il est dans une impasse et qu'il s'est mis lui-même dans un bourbier. Et donc, il essaye, il joue au poker et il menace. Il menace de crimes de guerre. Et voilà, mais parce qu'en fait, il a fait une immense connerie. Et moi, je pense qu'il faut revenir à arrêter cette guerre, revenir à la table des négociations, donner du temps aux négociations et arrêter les aventures militaires délirantes qui se concluront, comme toujours, par un fiasco.
Laura ?
Donc toi, tu négocies avec des gens qui massacrent leur population ?
Bah oui.
D'accord, ok.
Ok, bah oui, ça s'appelle la diplomatie.
Je peux finir une phrase ?
Oui, bah tu m'as posé une question, je te réponds, sœur.
Ce que j'essaye de dire, c'est que tu as l'ensemble, tu as quand même dans ces régimes des gens qui lapident, qui tuent.
Ok.
Ok, donc toi en fait, je finis. Trump, moi la seule chose qui me déçoit dans le conflit actuel, c'est que moi j'avais vu Trump, bien que à certains égards j'ai très peur de ce monsieur, j'avais vu Trump comme la seule personne qui était capable de sauver les femmes d'Iran.
En fait, t'aimes pas Trump, mais quand il tue des musulmans, là, tout d'un coup, c'est super.
Est-ce que tu m'as entendu parler de musulmans?
C'est exactement ce que vous pensez. La vie des Iraniens n'a pas de valeur pour vous.
Oui, c'est bien sûr.
Et les 135 fillettes tuées. Les femmes iraniennes, c'est aussi les 135 collégiennes.
Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Ça montre la faiblesse de tes arguments.
Qu'est-ce que je suis en train de te dire, Jean-Loup? Moi, je te parle juste à une population qui a été décimée par leur propre gouvernement.
Ok.
Ce sont des femmes qui hurlent, ce sont des femmes qui sont brûlées à l'acide, ce sont des femmes qu'on lapide, ce sont des gens qui sont obligés de s'expatrier de leur propre pays pour leur survie.
Pas que les femmes qui sont pendues.
Et non, t'as les hommes qui ont la décence de soutenir les femmes, eux c'est pareil.
Et qui sont pendues.
Donc je suis désolée, moi j'estime que c'est une réponse à non, peut-être pas un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité. Quand tu as des gens qui se font tuer parce qu'ils sont homosexuels.
Sûr, faut faire des guerres à tous les pays qui oppriment les femmes. On va être en guerre avec les trois quarts du monde, mais bon.
Et ça te pose aucun problème que la moitié du globe se fasse opprimer?
Ma réponse est très simple, ce n'est pas mon problème. Occupons-nous des affaires françaises.
Et alors tu veux que je te dise, Jean-Loup,
la liberté des femmes iraniennes, qui est très noble, dépend des femmes iraniennes elles-mêmes. Ce n'est pas à nous, et pas du tout à Israël et aux États-Unis.
Mais alors je vais te dire quelque chose. Moi, tous les gens là au Soudan qui se font massacrer entre eux, et là c'est pas une question d'arabe pas arabe, de noir pas de noir, c'est des noirs qui butent des noirs, ça me révolte.
Mais oui, faisons des guerres, envahissons le Soudan.
Mais j'ai peut-être envie de vivre dans un monde où une gamine de 6 ans ne se fait pas exciser avant de se marier avec un mec de 70. Pardon, oui, ça me concerne.
Mais faisons une guerre, envahissons tous les pays du Sahel.
Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Tu vas aller prendre tes sous, tu vas te mettre ton argent de côté, tu vas vivre avec ta petite vie de prof de philo qui se préoccupe de la vie de personne, tu n'es qu'un égoïste.
Pardons-les pour les libérer et leur apporter la belle démocratie féministe occidentale. Comme ça, toutes ces fillettes excisées, quand elles seront en morceaux sous tes belles bombes, elles seront plus libres.
Mais t'as demandé au peuple iranien? Est-ce que tu as vu comment le peuple iranien a accueilli Donald Trump? Est-ce que tu as vu comment ils l'ont accueilli?
Qui n'était pas d'accord?
Les gens qui n'étaient pas d'accord sont des gens qui cachent leurs femmes sous des capes noires, qui les empêchent de voter, qui les empêchent de manger, qui les empêchent de vivre, et qu'on découpe les parties vaginales pour être sûr qu'elles ne prennent aucun plaisir.
Alors pas en Iran.
Ah bon, les Mollahs, ils font pas ça?
Il n'y a pas d'excision en Iran.
L'excision
n'existe pas en Iran.
Mais c'est génial. Alors dans ces cas-là, une femme qui décide d'enlever son voile, on la couvre pas sous l'acide.
Et ensuite, dans les facs iraniennes, dans les universités iraniennes, il y a plus d'étudiantes, il y a plus de filles que de garçons dans les facs en Iran. C'est un fait.
Arrêtez de
dire des femmes ingénieures, il y a des femmes scientifiques en Iran. Attends, j'ai juste posé une question.
Non, j'ai plus envie de... Franchement, j'ai pas envie de parler à un mec comme toi, je te le dis.
Si tu vas continuer.
Est-ce que du coup, il faut déclarer la guerre à la Chine? Parce que la Chine enferme des millions de Ouïghours dans des camps de concentration.
Oui,
alors on déclare la guerre à la Chine.
Mais je trouve ça honteux.
Déclare la guerre à la Chine.
Écoute-moi bien.
Envahis la Chine.
Mais je suis présidente. Je suis présidente. Mais entre soutenir un régime qui lapide et
personne
ne pas l'attaquer...
Personne ne soutient le régime iranien ici. Non.
Toi.
Non.
Personne ne soutient le régime iranien ici.
Non. Jean-Loup dit que la guerre est illégale.
Malheureusement,
et absurde et une impasse.
Je crains que... D'abord, les Iraniens, quand même, nous gonflent avec leur uranium. Il y a un moment, ils font quand même chier tout le monde.
On en a aussi de l'uranium.
Oui, mais on n'est pas une théocratie qui pend des gens sur la place publique.
Donc, Israël a la bombe atomique.
Que quelques pays aient la bombe atomique. Le
Pakistan.
C'est, voilà. Le Pakistan voisin de l'Iran.
Enfin, mettre une bombe atomique dans les mains de terroristes, excuse-moi, c'est un chouïa différent.
C'est pas forcément une bonne chose qu'un pays qui promet.
Surtout, on ne menace pas
depuis des années.
Jean-Louis, ça t'a pas échappé.
De rayer un autre état de la carte se dote de la bombe atomique. Mm. Là-dessus, t'es quand même d'accord.
Ah, mais moi, je suis pas pour qu'il y ait une bombe iranienne. Bon. Simplement, je constate qu'il y a une bombe israélienne atomique.
Oui. Mais qui ne menace pas
Israël. Il y a une bombe atomique pakistanaise. Voisin de l'Iran, moi je serais iranien, je serais un peu inquiet d'avoir des voisins pakistanais avec la bombe atomique. Et surtout, juste un point sur la bombe atomique. Là, il y avait des négociations juste avant la guerre. Pendant les négociations, alors que les négociations étaient en cours, et que les Américains eux-mêmes, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains avaient dit, ces négociations ne sont pas infructueuses, elles donnent des résultats. Finalement, par surprise et illégalement, en violation du droit international, les États-Unis ont frappé l'Iran.
Ça fait des années.
Les autres pays, quelles conclusions ils vont en tirer? Ils vont se dire, on ne peut pas négocier avec les États-Unis. Ce pays n'est pas fiable. La seule sécurité, c'est d'avoir la bombe atomique.
En fait, c'est amusant parce que
ça va liguer la détestation des États-Unis. Non mais Jean-Loup,
c'est l'inverse. Ça va liguer le monde non occidental contre l'Occident.
C'est l'inversion accusatoire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça, c'est l'Iran qui est victime et c'est l'Iran qu'il faut protéger. Je vais terminer parce que s'il y a que toi qui parles, il n'y a pas de débat.
Il y a que moi qui dis des choses intéressantes.
Pardon, mais aujourd'hui, il est avéré que l'Iran a menti dans ses négociations. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef des inspecteurs qui a dit que l'Iran cachait de l'uranium et que le régime des Mollahs n'avait pas l'intention, contrairement à ce qu'il a pu avancer, à renoncer à son programme nucléaire. Un pays qui menace directement un autre pays de le détruire, doit-il posséder l'arme nucléaire? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Donc, a priori, on va répondre non. Alors, comment faire pour l'empêcher?
Mais alors, moi,
comment faire pour l'empêcher?
Ça fait des années que les Iraniens prétendent avancer vers le désarmement nucléaire et qu'en fait, évidemment, en loose day, ils fabriquent leurs bombes nucléaires. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école du Quai d'Orsay pour comprendre ça, ni voilà. Donc, Trump, il est dans la nasse parce qu'il a lancé effectivement cette opération, manifestement sans l'avoir beaucoup préparé, et il se rend compte que c'est pas aussi rapide qu'il l'espérait, et qu'en plus il y a des dommages collatéraux quand même assez sérieux avec ce putain de détroit d'Hormuz, si vous me passez l'expression, mais je me mets dans son esprit. Je crains qu'il n'ait malheureusement pas d'autre choix, comme il a pas envie de balancer 20 000 Marines ou 30 000 ou 40 000 sur le sol iranien. Je pense qu'il a pas d'autre choix là que de bombarder comme un sourd jusqu'à ce que les Iraniens craquent
et donc de tuer des milliers de civils.
Mais je pense
il y a pas des milliers de civils.
Si on détruit toutes les centrales électriques,
moi je pense que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, ils vont effectivement bombarder comme des malades, ils vont péter des ponts, des trucs, etc. Ils vont y aller vraiment comme des dingues, y compris jusqu'à mettre la population civile dans une situation compliquée. Mais les Mollahs, qui sont des fous furieux, ne lâcheront pas. Ils ont aucun intérêt à lâcher, donc ils ne vont pas lâcher.
Le temps joue pour eux.
Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que Trump, une fois qu'il aura balancé des hectotonnes de bombes là-bas, va se retirer. Et petit à petit, ce détroit va se débloquer avec un Iran qui sera en lambeaux, mais c'est tout ce qu'on, et les Mollahs seront toujours au pouvoir.
Et la population iranienne s'en tiendra pas beaucoup mieux. Et c'est ce qui est désolant dans cette histoire. C'est-à-dire que sous prétexte.
Ça, l'histoire n'est pas écrite encore, pardon.
Non, mais
la fin de l'histoire n'est pas écrite dans
tu regardes,
conflit.
Tu regardes.
Et de ce qui se passe.
Régime terroriste,
après la guerre.
Afghanistan, regarde les conditions des femmes. Les Mollahs, regarde
les
conditions
des femmes. Les Américains sont plantés aussi, d'ailleurs.
Mais à un moment donné.
Mais ça, c'est pas de la faute des Américains, hein.
J'ai pas dit que c'est la faute des Américains.
Oui.
Je dis que
ils sont partis la queue basse.
Je dis que malheureusement, oui, à chaque fois, pour des raisons plus ou moins géopolitiques, on laisse la moitié de la population se faire éclater. Et apparemment, ça ne choque pas. C'est normal. On s'en fout des autres. Mais moi, j'adorerais être l'ami de Jean-Loup. Putain.
Oui, c'est vrai.
Mais faisons la guerre à la Chine. Allons libérer les Ouïghours à coups de bombes atomiques.
Fred, bonjour.
Oui, bonjour.
Ingénieur du son, Fred, du côté de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred?
Bah, écoutez, c'est l'impasse. C'est l'impasse parce que je pense qu'on a des visions qui sont altérées des deux camps entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous a vendu des Iraniens un peu comme des barbares sauvages sans aucune intelligence, et il s'avère que au final ils ont plutôt stratégiquement bien joué leur coup, puisque malgré la puissance américaine et israélienne, ça n'avance pas en fait. Mmh. On nous a dit qu'on allait décapiter le régime et que le peuple allait prendre le pouvoir. Bon, on se rend compte que c'était pas vrai et que c'était pas possible surtout. Donc, alors on bombarde pour libérer des gens qui au final on va faire encore plus de mal, puisqu'on va bombarder leur infrastructure civile, leurs ponts, leurs centrales nucléaires, leurs centrales électriques et tout ça. Donc au final, quand ce sera fini, ils seront encore pires qu'avant. Ils auront toujours les mollas, ils auront un pays détruit. Donc à quoi ça sert?
Ça, on n'en sait rien, Fred. Alors déjà, moi, j'adore les gens qui font. Non, mais j'adore les gens qui font sur la... qui se. Alors, on est tout. Maintenant, tout le monde est devenu. Alors, Jean-Loup est juriste international, donc il est capable de nous dire ce qu'est un crime de guerre et pas un crime de guerre.
Attends, j'en ai un sous les yeux. Oui.
Là, tout le monde est stratège. Maintenant, tout le monde. On n'en sait rien. Peut-être qu'effectivement, après cette guerre, si elle s'arrête là, peut-être que le régime des Mollahs, quand même, qui est très affaibli, contrairement à ce qu'on raconte, puisque la plupart de ses têtes ont été tuées, peut tomber aussi derrière. La population peut se révolter. Et cette fois-ci, ça peut marcher. D'ailleurs, je pense que la grande crainte du régime des Mollahs, c'est l'après-guerre. C'est qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il n'y aura plus les bombes, que la population, peut-être à ce moment-là, décidera définitivement de renverser ce régime. Alors, la dernière fois, parce que tu parlais des civils, mais je rappellerai quand même que le plus grand crime commis sur le sol iranien a été commis il y a quelques semaines, en deux jours, où entre 30 000 et 40 000 femmes, hommes et parfois des très jeunes ont été massacrés par le régime. C'est ça le vrai crime commis ces dernières semaines, c'est celui-là.
Allez-y, Fred. Merci.
Et j'ai pas vu d'ailleurs les étudiants de Sciences Po manifester à ce moment-là. Je m'étonne.
Ça sert à rien en fait ce que vous racontez d'incriminer les étudiants de Sciences Po. Ils y sont pour rien en fait.
Voilà. Non, mais ils manifestaient pour Gaza, mais ils manifestent pas pour l'Iran.
Mais ils font ce qu'ils veulent en fait.
Oui. J'ai bien compris. J'ai bien compris qu'ils choisissaient leur cause.
On peut parler ou pas, ou sinon vous faites votre monologue, parce que bon, la propagande américaine, on la connaît par cœur, hein, vous savez.
Moi, la propagande américaine.
Allez-y, Fred. Je vous dis juste simplement, c'est pas histoire d'être spécialiste du droit international ou pas. C'est-à-dire qu'on voit, on regarde et on s'aperçoit que ces populations iraniennes. Au début, c'était les mollahs qui les massacraient, et maintenant, c'est les bombes qui les massacrent.
Mais non.
En plus, si vous lisez la presse américaine, la presse anglaise, etc., ils vous expliquent que la population est absolument terrorisée par le massacre qu'il y a eu il y a quelques semaines, et ils ne vont pas se révolter.
Très bien
qu'à partir du moment où ils vont être dans la rue, ils vont se faire massacrer.
Bah pour l'instant, les Iraniens ne se révoltent pas. Ils se révolteront encore moins sous les bombes.
Tu sais, aujourd'hui,
personne n'aime les missionnaires armés.
Les Iraniens ont peur parce que s'il y a bien un régime qui ne protège pas sa population, c'est le régime des Mollahs. Il n'y a pas d'abri comme en Israël. Il n'y a pas d'alerte. C'est-à-dire que quand un missile arrive, personne ne prévient la population. Donc effectivement, la population iranienne vit sous la crainte de prendre une bombe.
Le plus simple, c'est de ne pas les bombarder.
Les Anglais ont bombardé la France pour notre bien.
Allez-y, Jean-Loup Bonamy nous aurait dit à ce moment-là qu'il ne fallait pas bombarder Dresde.
Attendez, j'aurais que Fred finisse.
Je disais simplement, il y a énormément de pays qui n'ont pas de sirènes, qui n'ont pas d'abri, et si jamais ils sont bombardés, ils sont bombardés comme à peu près tout le monde. Hein. Israël n'est pas...
C'est pour ça qu'il y a très peu de victimes en Israël, parce qu'il y a un système, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un système très bien fait d'alerte, d'abri, d'SMS, etc., qui n'existe pas en Iran.
Qui est lié à leur contexte...
C'est un gouvernement qui protège la population.
Juste Fred, là j'ai regardé, selon les autorités iraniennes, on a entre 1200 et 1300 morts depuis le début du conflit de victimes iraniennes. Donc, cette guerre a tué, et c'est très très triste, à peu près entre 1200 et 1300 personnes avec ce conflit. L'Iran, juste avant ce conflit, a massacré plus de 40 000 personnes. Qui a commencé la guerre? Qui
c'est
a pas cherché
une guerre, c'est la politique
toi,
intérieure iranienne.
Non,
c'est la politique
ça, Laura,
intérieure
s'il te plaît,
iranienne.
C'est bon, calme-toi. Dans un instant, on continue de discuter.
C'est le pluraliste, Jean-Loup est facho.
On cherche pourquoi il est seul.
Ah bon enfin,
pardon. Mais il n'aura pas d'attaque personnelle non plus, s'il te plaît.
Non, Jean-Loup est mollah.
Ces gens, tout les gens redescend un peu tranquillement. Que la vie des Arabes et des Iraniens vaut moins que celle des Occidentaux.
Défend
la vie des Iraniens.
Il est 10h20. Merci à Fred. On continue de discuter dans un instant. À tout de suite avec nous sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Il est 10h25, vous êtes avec nous sur RMC, RMC Story. On va conclure notre discussion à propos qui enflammable avec
comme le pétrole.
Charles Consigny, avec Laura Vartan-Martinez, avec Jean-Loup Bonamy, à propos de la tactique de Donald Trump. Est-ce qu'il doit frapper encore plus fort ou pas pour parvenir à ses buts? Amir est avec nous. Il est franco-iranien. Bonjour Amir.
Oui, bonjour.
Responsable de stock, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe? Est-ce que Donald Trump doit encore monter le ton et les frappes?
Oui, alors tout à fait. Alors, je suis en préambule, en fait, j'aimerais juste dire, donc j'ai 47 ans, je suis né en Iran. Ma mère nous a fait quitter avec ma sœur, en fait, l'Iran à l'âge de 8 ans, juste avant la fin de l'Iran-Irak, pour qu'on puisse être grandir et pour étudier en liberté dans un pays libre. Parce que ma sœur à 13 ans était obligée déjà de porter le voile et que moi à 18 ans j'aurais été obligée d'aller faire le service militaire pour les gardiens de la révolution, ce que ne voulait personne. Et Trump, en fait, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, mais que là en ce moment je soutiens énormément parce qu'en fait le peuple iranien est désarmé dans le pays. Donc Jean-Loup dit ils ont qu'à faire la révolution, mais ils l'ont déjà essayé plusieurs fois depuis 2022. Et que malheureusement, à chaque fois, ils se font massacrer, tuer, parce que la République islamique, et il ne faut pas dire l'Iran, il faut dire la République islamique, s'il vous plaît, font venir en fait des milices d'Afghanistan, du Pakistan, d'Irak, pour qu'ils puissent massacrer en fait le peuple iranien, qui sont désarmés. Donc oui, on soutient Trump.
Et vous pensez que la stratégie est la bonne ou pas, là, Amir?
Oui, parce que j'arrive encore à avoir des petits échanges avec de la famille là-bas grâce à des échanges internet, un message uniquement parce qu'on n'arrive pas à les appeler. Ils sont plutôt pour également en fait ce qui se passe et qui voudraient que ça aille plus vite et plus fort.
Amir, dans le suivi de ce conflit, les choses sont assez inégales parce qu'effectivement, on sait exactement ce qui se passe aux États-Unis, grande démocratie, avec du débat, avec les gens qui critiquent Trump, qui soutiennent, etc. Malheureusement, dans cette République islamique, on a très peu d'informations. On ne sait pas précisément à quel point le régime est affaibli par la mort de ses dirigeants. Le chef du renseignement des gardiens de la Révolution vient d'être tué, par exemple. Chaque jour, il y a une tête qui tombe. On ne sait pas précisément comment ça fait vaciller le pouvoir. Et là, ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer, une fois le conflit terminé, un pouvoir quand même très affaibli et l'occasion cette fois-ci d'arriver enfin à renverser ce pouvoir?
Je pense que oui, c'est parce que là déjà on voit que les Basidji et les gardiens de la Révolution sont très affaiblis puisqu'ils continuent à aller chercher des militaires à l'extérieur du pays pour pouvoir les aider parce que avec des bombardements, ils ont quand même été pas mal affaiblis. Et que derrière, oui, une fois que vraiment les grandes têtes seront tombées, je pense que là, le peuple pourra reprendre également le pouvoir.
Avec qui à sa tête? Qui pourrait, voyez, d'un coup, dire à Trump, c'est bon?
La seule personne qui est capable actuellement et qui est soutenue par un grand nombre de la diaspora iranienne, mais aussi à l'intérieur du pays, c'est Reza Pahlavi.
Le fils du chat.
Qui nous a fait un long liste de la transition parce qu'il veut pas revenir en tant que monarque. Il veut juste venir refaire la transition, remettre le pays en ordre. Et il sera pas tout seul puisqu'il sera accompagné également, par exemple, de la prix Nobel de la paix.
Et ensuite des élections, c'est ça?
Exactement, après des élections. Et lui, il s'est retiré, en fait,
de dire que l'Iran souhaite une démocratie. Je vous en remercie tellement, Amir. Je vous remercie. Ça éclaire quelques personnes sur ce plateau.
L'Iran souhaite de redevenir une démocratie, ni une monarchie, ni une république islamique.
Je suis un peu surpris, donc je comprends tout à fait votre point de vue, Amir, mais donc, vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans la diaspora en France, donc vous n'êtes pas sous les bombes actuellement, d'une part, et vous n'êtes pas en Iran.
J'ai grandi sous les bombes, Jean-Loup, pendant la guerre Iran-Irak.
Tout à fait, mais là, actuellement, en 2026, vous n'êtes pas sous les bombes.
J'aimerais bien y aller, mais malheureusement, je ne peux pas y aller.
Pourquoi vous ne pouvez pas y aller?
Parce que, déjà, je suis, même à 47 ans, si je rentre au pays, malgré ma double nationalité, ils me prennent mon passeport et ils me gardent dans le pays pour que je puisse aller faire le service militaire avec eux et que je sois mis sous les gardes avec l'arme dans les mains, quoi.
Et d'autre part, moi j'ai un peu du mal, l'Iran veut une démocratie. C'est comme si je disais, en France, il y a 35% des gens qui votent pour le Rassemblement National, donc la France veut Jordan Bardella. Ou à l'inverse, il y a 30% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, donc la France veut Emmanuel Macron. Mais en fait, l'Iran, c'est une réalité plurielle.
On a la chance de pouvoir décider de voter.
Mais il y a des élections sur l'Iran.
C'est vrai que des élections,
L'Iran est une société complexe. On pense qu'il y a une minorité, mais une grosse minorité quand même de gens qui sont soutiennent le régime, à peu près 20-25% de la population qui soutient le régime. C'est une minorité, mais c'est suffisant pour plonger le pays dans la guerre civile.
Alors, allez-y, Amir.
Jean-Loup, est-ce que vous êtes déjà allé en Iran ?
Oui, je suis déjà allé en Iran.
Vous êtes allé visiter quelle ville ?
Téhéran.
Voilà. Vous n'avez pas visité le
Au
pays.
Au passage, il a été recruté par les Mollahs, manifestement.
Allez-y, Amir, allez-y.
Qu'il Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller en 2015-2016, quand il y a eu les accords avec Obama, où j'ai eu l'autorisation de pouvoir y retourner. J'ai pu amener ma femme, qui est française, et je peux vous dire que je suis allé lui faire visiter tout le pays. Elle a découvert un pays magnifique. Elle a pu discuter avec des gens. Elle a vu ce que c'était le pays, l'Iran, ce que c'était l'Iran et pas la République islamique. Parce que quand vous allez qu'à Téhéran, malheureusement, vous tombez sur énormément des proches du gouvernement. Alors que quand vous allez visiter un petit peu les autres pays, que ça soit l'Isfahan, que ça soit Persépolis, que ça soit Shiraz, que ça soit plein d'autres villes, vous découvrez ce que c'est vraiment l'Iran. Et là, vous pouvez échanger avec les gens et vous voyez comment sont les Iraniens. Et Téhéran n'est pas une image à 100% de ce que représente l'Iran.
C'est quand tu imagines ce que c'était l'Iran avant, la culture, les couleurs, les habits traditionnels, ils sont en train de ravager ce qu'il y a de plus beau. Et toi, tu les défends, je ne sais même pas comment tu fais.
Vous avez les plus grandes synagogues qui sont en Iran, et ça, malheureusement, ils sont encore moins 2015-2016 quand je suis allé visiter. C'était magnifique. Et malheureusement, je ne sais pas dans quel état on va les retrouver, ces monuments, quoi.
Ah oui, surtout avec des bombardements.
Mon Dieu.
Non, c'est en interne que c'est détruit, Jean-Loup, c'est pas les bombardements. Les bombardements sont ciblés exactement, ils savent tuer quelqu'un dans son appartement, ils n'ont pas besoin de massacrer. Je peux vous envoyer des photos, des images, des vidéos en direct de Téhéran, vous avez les bâtiments qui sont encore debout. Les seuls bâtiments qui sont détruits, ce sont ceux où il y a la République islamique qui ont mis leur base dedans. Et le truc, c'est qu'ils se mettent dans des écoles et qu'après, malheureusement, ils vont dire que c'est les États-Unis ou l'Israël qui ont tué l'Iran, alors que c'est faux. C'est leur base qui sont dans ces écoles. Ils se mettent exactement pour mettre les civils comme bouclier pour se protéger.
Vous avez encore une bonne partie de votre famille là-bas, Amir?
Oui, j'ai encore de la famille là-bas, des amis.
Vous arrivez à avoir, malgré la coupure d'Internet et la censure, vous réussissez à avoir quand même des messages?
Ils arrivent à avoir encore des messages écrits par WhatsApp grâce au VPN ou grâce également à Starlink d'Elon Musk.
Et donc, vous pensez que le régime peut tomber, vous?
On l'espère fortement, et là, vraiment, là, de plus en plus, quoi. C'est, toute façon, c'est pas viable derrière, quoi.
Merci, Amir, de votre témoignage. Merci d'avoir
Merci
été...
Merci à vous. J'aimerais remercier Olivier pour toutes ses paroles par rapport à Jean-Loup qui ne fait que défendre les Mollahs. Et merci,
je ne défends pas les Mollahs. Jean-Loup, je condamne les Mollahs. Une aventure
vive la liberté.
Qui va nous amener au fiasco.
Vive la liberté partout et pour les Iraniens également.
Que vous puissiez venir tous visiter l'Iran, ce magnifique pays. Avec plaisir. Son peuple.
J'en rêve, Amir.
Jean-Loup se rend chaque mois à l'ambassade d'Iran à Paris.
Où j'émerge.
Il en ressort avec une grande enveloppe Kraft.
Ah bah, ma fortune immobilière, moi, vient de l'ambassade.
Et on pourrait rappeler le slogan, juste pour énerver Jean-Loup.
Il se rend directement, en général, avenue Montaigne.
Juste pour énerver Jean-Loup, femme, vie, liberté.
Ça ne m'énerve pas du tout.
Exactement.
Mais moi, ce slogan ne m'énerve pas du tout.
J'aimerais bien que vous invitiez quelqu'un de femme vie, de l'association Femme Azadi, que ce soit Mona Jafarian ou une autre personne qui vienne parler aussi un petit peu de l'Iran et que vous qui mette les contradictions de Jean-Loup en direct à la télévision.
Avec grand plaisir.
Vous venez de le
et
faire.
Par ailleurs,
bien donner aussi la parole à une femme.
J'ai une grande sympathie pour le mouvement Femme Vie Liberté, mais cela ne doit pas nous amener à faire des guerres. En aucun cas. Notre sympathie tout à fait réelle pour ce mouvement ne doit nous amener à nous lancer dans des aventures qui seront un fiasco.
Donc quand un pays tue 50 000 civils...
En deux jours, il faut le condamner aussi, Jean-Loup.
C'est ce que j'allais dire. Quand un pays tue 50 000 personnes, 50 000 civils, toi, tu lui réponds avec une boule puante.
Donc, il faut faire la guerre à tous les pays qui ont réprimé très durement.
Jean-Loup, il ne fallait pas condamner ce qui se passait à Gaza?
Pardon. On n'a pas fait la guerre à Israël. Non, c'est une excellente comparaison.
Tu étais très virulent là-dessus.
Oui. Tout à fait. Je le suis toujours. On n'a pas bombardé Israël.
Tu demandais bien une intervention française. Tu disais que la France ne doit pas attaquer Israël.
J'ai jamais dit
mais
que
tu disais qu'il fallait
Israël.
En faire pour empêcher ça.
Oui, bah j'ai jamais dit que la France devait bombarder Israël. Je me suis pas dit oh tiens, il y a 50 000 morts à Gaza, on va bombarder Israël. J'ai jamais dit ça, ça aurait été absurde. Tu vois, absurde militairement, politiquement. Donc j'ai jamais dit ça. Et ben c'est pareil pour l'Iran. C'est pas parce que l'Iran massacre sa population de même qu'Israël a massacré à Gaza, et ben c'est pas une raison pour attaquer l'Iran. On n'a pas attaqué Israël évidemment, personne n'a pensé à attaquer Israël. Et ben c'est pareil, il y a pas de raison d'attaquer l'Iran et de se lancer c'est encore dans une impasse politique.
Et Trump doit-il frapper plus fort? C'est là. Merci Amir d'avoir été des nôtres au 32-16. Trump doit-il frapper plus fort? Mais c'est quand même un oui à 80%. Allez, dans un instant, on va regarder ce qui se passe du côté de la droite. Parce que petit à petit...
C'est encore pire que le Moyen-Orient.
La primaire se met en place. Donc, qui est le meilleur candidat? Philippe, Retailleau, Bertrand ou Lisner? On en a sélectionné 4 et vous venez en discuter avec nous au 32-16. Il est 11h25 et vous êtes avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Jessie Plémo. 11h20, les GG sont là avec vous en direct sur RMC et RMC Story. Les amis, la radio et la télé, 11h20, avec Laurent Barton Martinez, avec Jean-Louis Bonamy et avec Charles Consigny, on va regarder la droite. Et c'est toujours intéressant justement de vous demander votre avis comme tous les jours, en particulier de savoir là en ce moment qui peut avoir la carte à droite, qui peut avoir la main, qui peut être le meilleur à droite bien évidemment. David Lisnard, le maire de Cannes, Bruno Retailleau, le patron des Républicains, Édouard Philippe, le maire du Havre, ou le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.
Alors on a pris ces quatre-là parce que ce sont les quatre qui sont vraiment déclarés. Il y en aura peut-être d'autres, il y en a certains y pensent, hein, pas seulement en se rasant, mais David Lisnard s'est déclaré candidat, Bruno Retailleau également, Édouard Philippe et Xavier Bertrand. Alors c'est amusant parce que parmi les quatre, ils veulent pas tous des primaires. Hein. David Lisnard veut une primaire de la droite et du centre, mais par exemple Édouard Philippe n'en veut pas et Bruno Retailleau non plus. D'ailleurs en ce moment c'est la bagarre parce que beaucoup disent à droite et au centre, si on a pas un candidat unique, eh bien on se fera battre à la fois par Bardella et Jean-Luc Mélenchon et on sera exclu du deuxième tour. Puis d'autres disent au contraire, on va pas faire une grande primaire avec plusieurs partis, parce que tous ces gens-là n'appartiennent pas au même parti, ça ne marchera jamais. Et puis ensuite, on va nous demander de défendre des choses auxquelles on ne croit pas. Bref, est-ce que selon vous, il faut cette primaire? Et s'il y a une primaire, à votre avis, quel est le mieux placé entre David Lisnard, Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Xavier Bertrand?
Laura.
Non, moi j'ai donné mon opinion sur la primaire vendredi. Je trouve que c'est complètement inutile, sachant qu'on a un premier tour. Une primaire est nécessaire si on a un tour unique. Ça, c'était mon opinion. Maintenant, si on me pose la question vers qui je me tourne, alors déjà, j'exclus complètement Édouard Philippe qui est tout sauf à droite. Il est à la gauche de Macron, pour dire. Moi, j'invite Monsieur Lisnard.
Donc déjà, toi, dans la primaire de la droite,
elle élimine d'abord.
Tu élimines Édouard Philippe.
Ah bah oui.
Ensuite, tu élimines qui? Procédons par élimination ensuite.
Non, ensuite, je trouve que
c'est la droite et le centre.
Oui, ouais. Non, mais il est pas au centre, il est à gauche du centre, donc d'accord. Il est exclu.
Okay.
Ensuite, les trois prétendants sont de droite, donc ce sont des bons candidats. Ensuite, ils doivent rassembler par rapport à leurs idées. Moi, ma préférence pourrait aller. Monsieur Lisnard, parce que sur le plan libéral, c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Il veut rendre de l'autorité aux régions. Il veut décanter la bureaucratie de nos administrations. C'est des choses, en fait, je trouve que le programme de Monsieur Lisnard coule de bon sens. Ce n'est que mon avis.
D'accord.
Je l'invite cependant. Maintenant, la primaire ne se fait plus dans les urnes. La primaire, malheureusement, elle se fait dans les médias, dans les actions politiques, dans les sondages. Mmh. Donc, si Monsieur Lisnard veut vraiment aider les entreprises, redynamiser l'économie en la libérant, il faut qu'il se mette en lumière. Je sais que c'est pas un exercice qu'il apprécie particulièrement et pour lequel il a pas forcément des acuités paradoxales. Mais
tu te proposes comme coach?
Je suis pas coach, ça tu confonds avec Joël. Non, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes idées. Monsieur Retailleau, je trouve qu'il s'est
faux.
Son
Gallimard.
Propre parti ne lui obéit pas. Il dit, il pouvait récupérer des électeurs du RN. Il a craché dessus. Bon bah donc, ça veut dire que les quelques
donc,
milliers. Voilà.
Lisnard. Okay.
Mon préf dans l'histoire, ce serait Lisnard.
Charles. Plus, c'est beau. Bah cette primaire d'ailleurs.
Non mais
utile.
Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour moi, il y aura pas de primaire. En réalité, dans les candidats que vous citez, je suis désolé pour les autres, mais le seul candidat sérieux, c'est Édouard Philippe. Les autres, en réalité,
aujourd'hui,
à mon sens, aujourd'hui, mais à mon sens, ne sont pas dans la course. Et ce qui se passe même, c'est que en réalité, vous avez beaucoup de gens très courageux aux Républicains qui sont déjà en train de passer chez Édouard Philippe. Donc les rumeurs commencent à sortir, etc. On a entendu certains noms.
Alors certains ont démenti, Valérie Pécresse et Jean-François Copé ont démenti ce week-end le fait qu'ils rejoignaient Horizon, le parti d'Édouard Philippe.
Donc
un ralliement commence toujours par un démenti, c'est la première étape.
Ce phénomène est déjà en train de se produire. Et je sais pas comment va jouer Édouard Philippe, mais je crains que si il est plombé à la fois par le bilan macroniste, par les sortants macronistes et par les chevaux de retour d'une droite qui a perdu toutes les élections récentes.
Qui a fait un appel.
Alors à part quelques élections locales, etc. Mais bon, voilà, je pense que il court une voie, non pas forcément de jupéisation, mais de baladurisation à laquelle il faut qu'il fasse attention. Et surtout, je crains que, si vous voulez, je pense qu'il est en train de manger, c'est Pac-Man, il est en train de manger tous ces gens-là qu'on voit là, certains qui d'ailleurs, par eux-mêmes, n'arrivent pas à émerger, mais il peut se retrouver ensuite à être un candidat qu'intéresse pas spécialement les électeurs de droite.
Être un peu le candidat du système.
Moi, je continue à penser que la France a besoin d'une révolution. Je pense qu'on a besoin d'un programme extrêmement radical parce qu'on est un pays qui est en train de décrocher. Je suis pas sûr que ce soit lui qui portera ce projet-là le moment venu.
Et du coup, ton préf, alors?
J'en ai pas.
D'accord. Jean-Loup, et puis ensuite, on va dans la Marne écouter Florian.
Alors, quand même, une petite précision. Je sais que Xavier Bertrand nous écoute. Mm-hmm. Ben, on le sait. Et j'aimerais quand même une réduction sur ma carte TER Hauts-de-France. Donc, j'aimerais une réduction. Xavier, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes, il me faut une réduction. Et en échange, je dis du bien de vous, mais uniquement pour ça, uniquement sur votre politique.
Comme ça, il peut épargner, il sera content.
Et donc, voilà. Non, plus sérieusement, en effet, c'est que, comme le disait Charles, pour l'instant, à l'instant T, ça sera peut-être différent dans un an, mais pour l'instant, aucun des trois autres, que ce soit Retailleau, Lisnard ou Bertrand, n'est vraiment dans la course auprès du grand public. C'est-à-dire que nous, on les connaît parce qu'on suit ça de près, mais tu vas, je suis désolé de le dire, tu te balades dans une rue en dehors de Cannes, je sais pas, tu vas à Dijon par exemple, tu prends 10 Français lambda au hasard, tu leur demandes qui est David Lisnard, il y en a 8 qui ne le savent pas. Bon, et alors c'est peut-être dommage, c'est peut-être regrettable, mais en tout cas, il y en a 8 qui, pour l'instant, à l'instant T, ne le savent pas. Et moi, je suis un peu surpris de voir que ils ne fassent pas plus d'efforts, Lisnard, Retailleau, Xavier Bertrand, pour se poser en rupture et pour faire des propositions qui leur permettraient des déclarations qui leur permettraient d'émerger.
Peut-être parce que c'est un peu trop tôt pour le moment. Si
peut-être que c'est un peu trop tôt, mais vu qu'ils parlent de très loin.
Et peut-être parce qu'il ne le pense pas, tout simplement.
Ça, c'est aussi une chose. Et Xavier, et Édouard Philippe, c'est la continuité du système. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, d'ailleurs, ça sera sa ligne. C'est-à-dire, le système est pas terrible, mais c'est mieux que l'aventure. L'aventure, c'est Bardella ou Mélenchon.
Si j'étais Philippe, je bloquerais l'accès, si vous voulez, à mes meetings, à tous ces sortants qui vont s'agglutiner autour de lui, parce que tu peux être sûr qu'ils vont tous y aller.
Ils vont tous y aller.
Toute cette macronie que les gens ne peuvent plus voir en peinture, moi, si j'étais lui, je mettrais des vigiles pour bloquer l'entrée.
Mais tu vois, j'ai lu un papier ce week-end, parce que Édouard Philippe, il a fait quand même son rebelle, quand il a dit qu'il souhaitait que Emmanuel Macron démissionne. Souvenez-vous, et ça fait un tollé, etc.
Moi, j'avais dit qu'il avait bien fait dire ça.
Et là, je vois, j'ai lu un papier comme quoi maintenant, il regretterait, parce que comme il voit qu'Emmanuel Macron dans les sondages remonte un peu, et finalement, il ne voudrait pas non plus être dans la rupture. Ça commence pas bien.
Florian, bonjour.
Bonjour.
Salut, Florian, viticulteur de la Marne, un fidèle des GG. Alors, est-ce qu'il y a pour vous une tête qui se dégage là dans celle qu'on a sélectionnée?
Alors moi, je suis plus sur la position de David Lisnard. Alors en première chose, déjà Édouard Philippe, pour moi, il est complètement discrédité parce que c'est un peu le symbole de tous les échecs de Macron. C'est l'accélération des gilets jaunes, c'est la fermeture de Fessenheim, c'est les autorisations pour aller faire pisser son chien, et puis une réforme des retraites qui a échoué à cause de l'âge pivot. Donc donc au final, il a voulu imposer ça, et puis en plus il fait pas rêver. Il nous promet de travailler plus. Je suis pas contre sur le fond, au contraire. Mais moi, je voudrais qu'on me dise, on va gagner plus, et pour ça, on va travailler plus, et pas, je vous promets, du sang et des larmes, quoi.
Non, lui, il veut que vous travailliez plus pour payer plus d'impôts.
Donc, oui,
non,
mais et par ailleurs, il est pour l'écologie assez punitive, hein, Édouard Philippe.
Ouais, non,
les éoliennes. Donc, vous êtes
Édouard Philippe est complètement discrédité à mes yeux. Alors, après, j'ai trouvé Xavier Bertrand un peu timide quand il avait répondu à Joël Dagosséry sur la retraite par capitalisation. En gros, c'était statu quo, à peu près. Et puis Retailleau, son positionnement au gouvernement était pas mal, mais en fait, je connais pas du tout son programme, quoi. Donc, vraiment, je pense que.
Mais en revanche, pourquoi vous penchez plus du côté de David Lisnard là pour le moment ?
J'ai plutôt des tendances libérales. Il parle d'inclure de la capitalisation dans la retraite. Ça me plaît. J'avais échangé avec lui. J'avais proposé une façon de financer un peu une transition de retraite par capitalisation. Enfin, j'ai transmis mon truc et en fait, je trouve qu'il avait des points où on se rejoignait. Donc, notamment sur l'éducation, j'avais proposé une éducation financière à l'école. C'était quelque chose qui était important pour moi. Il n'avait pas l'air contre. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui.
Donc vous voudriez que la France prenne un virage plutôt libéral. Où on desserre la vis, remet l'État sur ses fonctions régaliennes. Ouais, d'accord.
On a besoin d'un choc dans l'économie.
D'accord.
Et donner de l'espoir, parce que honnêtement.
Alors, Florian, on a Brice, notre ami serveur itinérant. Bonjour, Brice.
Salut tout le monde.
Salut Brice. Est-ce que pour toi, il y a un visage qui se dégage ou pas ? Alors, tu as entendu, là, Florian nous disait David Lisnard, et toi ?
Bah, je suis un peu sur la même ligne aussi de Lisnard.
Il y a tous les amis de Lisnard qui se sont donné rendez-vous 32-16.
Allez, vas-y.
Non, mais c'est quand même le seul qui a quand même une droite, qui a quand même une ligne plutôt libérale pour de la droite. Parce que le reste, Édouard Philippe, c'est quand même, c'est le bilan de Macron. Xavier Bertrand, c'est quand même un peu l'échec de ces dernières années. Même si ses idées étaient pas trop mauvaises. Mais, après, Retailleau, comment dire.
C'est l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron aussi.
C'est Macron aussi. C'est un mec qui est complètement désavoué par son parti, qui est tout seul. On l'a vu à sa conférence de presse au niveau de je ne sais plus quoi. On avait l'impression du mec qui ramait tout seul contre l'océan entier.
Oh, c'était pas une impression, vous avez raison.
Mais après, moi, il y a quand même une personne, mais que j'avais déjà dit plusieurs fois il y a quelques temps, qui pour moi représenterait vraiment la droite classique traditionnelle. Ça reste Florence Portelli qui a quand même un discours de cohérence.
Ah, Florence Portelli, la mère de Taverny.
Je ne peux être que d'accord.
C'est dommage que.
C'est chez Laura.
Je ne sais pas si elle a des ambitions présidentielles ou quoi que ce soit, mais c'est quand même dommage parce qu'elle a quand même un gros potentiel, elle a un discours de cohérence. Elle a toujours nié en bloc les.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est très masculin, c'est cette primaire. On voit quand même qu'en politique, c'est compliqué.
Comme je vous avais déjà dit, moi j'avais voté pour elle, elle a eu le baiser de la mort, elle s'est fait désavouer, elle est passée plus que pour une. On s'est compris. Mais après, est-ce que d'un côté, les Français voudront au présidentiel d'un programme de droite ?
C'est ça.
Le RN qui est en tête de tous les sondages avec un discours, un programme économique qui est quand même plus socialiste que libéral.
Ah, c'est une bulle.
C'est vrai, Brice.
C'est pas faux.
On verra. Là, c'était juste une.
Le libéralisme, pour l'instant, c'est quand même quelque chose de très minoritaire en France.
Petite prise de température. On verra, Florian, Brice. Alors, quel est le meilleur candidat à droite là parmi les quatre qu'on a sélectionnés ? On va voir s'il y en a un qui se dégage selon vous. David Lisnard à 60%. David Lisnard à 60%.
Ce sont des travailleurs qui écoutent les grandes gueules, c'est pour ça.
Allez, dans un instant, on va revenir au carburant, on en est avec Jean-Louis Chilansky, c'est l'ancien patron de l'Union française des industries pétrolières.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.